Kompass. Die Schweiz hat mehr als vier Sprachen. So, so, gross, so, so, da.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aigo et d'autres collaborateurs. Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagnon, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans voix, la voix des opprimés. Bonsoir Lomé, bonsoir Libreville, Abidjan, Accra, Bamako, Kinshasa, bonsoir Bujumbura, Dakar, Ouagadougou, bienvenue dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal Car Suisse Almanique. Cette émission est également en synchronisation sur Radio Avolété, la voix de la résistance du peuple togolais. Au sommet de cette édition, nous allons en premier aborder les questions autour de la crise sociopolitique au Togo. Le combat pour la tenance et la démocratie au Togo est toujours à l'étape de la résistance. Quelle forme de résistance le peuple togolais peut-il adopter face au régime militaire? Eh bien, mes auditrices, auditeurs panafricains, et sur l'actualité politique en Afrique, ces derniers jours, de partout dans le monde entier, on assiste à une incursion géopolitique et diplomatique. L'Italie qui taxe la France de continuer de coloniser l'Afrique en embrigadant le porte-monnaie des pays de la zone franc CFA. L'Israël qui intensifie sa présence sur le continent par la visite de Netanyahou au Tchad. La France et l'Union européenne qui se mêlent de l'élection en RDC, etc. On dira-t-on l'Afrique est-elle toujours cette terre vierge dénuée de toute force ou présence endogène capable de bâtir et conduire sa destinée? Autant de questions qui feront l'objet de discussions avec notre invité de ce soir, qui est un grand panafricain togolais. Il va réagir en ligne depuis les Pays-Bas. Mais comme à l'accoutumée, marquons une pause musicale avec cette chanson de l'artiste togolais Sassou Koudjou qui interpelle l'armée togolaise à ne pas tuer leurs frères lors des manifestations populaires. Un message très fort qui doit effectivement interpeller la conscience des militaires qui très souvent tirent à bout portant sur les manifestants. Merci de vous être fidèles.
Tu me fais que tu me laisses tout loin et la t'aimes. basunye hona madoso godo aumba famyo awafyakan minga swe bebe mbedona yo nyemanyi soja vava trosu tubalao nyema temdale nyema unye jio da nyema yo bere nyema yo nyema yipo wo awafyakan bubuto nyema deola nyema deo nyema deko wo mulono vinya kweto
analysant débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.
Kanal Krad.
Merci beaucoup à l'artiste togolais Sassou Koudou pour cette chanson qui doit effectivement interpeller la conscience des militaires togolais. Et nous accueillons en ligne depuis les Pays-Bas Gaëtan Baptiste Omarou, coordinateur de CLITD, cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique. Gaëtan Baptiste Omarou est également panafricain. Il va commenter et analyser la crise sociopolitique au Togo, notamment l'actualité politique en Afrique aussi. Gaëtan Baptiste Omarou, bonsoir et merci de nous accompagner.
Bonsoir Sylvain Mousse et bonsoir aux auditeurs de la radio Canal K ainsi qu'à ceux de la radio à vous l'été.
Eh bien, on va commencer par l'actualité politique au Togo, cette crise qui perdure. Gaëtan, des voix s'élèvent pour appeler le peuple togolais à la résistance. Alors comment, selon vous, organiser cette résistance, surtout avec les exactions militaires sur les populations?
Merci Sylvain pour cette question que se posent, je crois d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes. Je crois que la réorganisation de la lutte a déjà commencé. Je n'en veux pour preuve que la marche de ce samedi, qui constitue le véritable top départ de la phase 2 de notre lutte. Et au fond, je crois même que nous avons déjà remporté une première victoire en maintenant la cohésion au sein de la C14. Il était à craindre que, suite à la mascarade du 20 décembre dernier, la C14 ne vole en éclats, mais il n'en a rien été. Nous avons su maintenir la cohésion du groupe. Et il s'agit maintenant d'élargir le périmètre de la contestation aux autres organisations et plus particulièrement aux organisations non politiques. D'ailleurs, la déclaration des évêques dernièrement à Palimé constitue un bel exemple à suivre pour les autres organisations qui, jusqu'à présent, avaient hésité à se joindre à la lutte du peuple togolais. Je crois qu'il faut faire de cette lutte un véritable combat national pour l'émancipation et la libération du peuple. Et dans ce combat, toutes les organisations voulant le bien de la population togolaise ont leur rôle, ont leur doivent prendre leurs responsabilités et ont leur rôle à jouer. Et donc j'invite par le biais de votre radio, j'invite toutes les autres organisations, que ce soit les organisations culturelles, les syndicats, les églises, les mosquées, et j'en passe, à se joindre à cette lutte et à organiser leurs adhérents, leurs militants, et au fond à organiser le peuple togolais de manière efficace pour qu'on puisse mener ensemble à la victoire ce combat pour l'alternance.
Alors, Gaëtan Baptiste Omaro, après les élections législatives, le pouvoir annonce les locales sur cette année. Alors, selon vous, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition doit-elle ou non participer à ces élections locales?
Ben écoutez, je ne crois pas qu'il soit judicieux de participer à des élections locales en 2019, tout simplement parce que je ne vois pas ce qui a changé fondamentalement entre les dernières législatives, c'est-à-dire entre le 20 décembre dernier et maintenant. Pour ce qui me concerne, je crois que nous devrions utiliser toutes nos forces, toutes nos énergies, pour réorganiser nos populations et réorganiser nos structures de lutte pour que pour être prêts pour les enjeux majeurs que constitue l'alternance au sommet de l'État en 2020. Pour ce qui est de ces élections locales, je crois plutôt que le pouvoir veut s'en servir pour nous divertir, pour détourner notre attention sur l'enjeu fondamental de l'alternance l'année prochaine. Et donc, bien que ce ne soit pas une position dogmatique de ma part, je crois que il faudra éviter de tomber dans ce piège-là, parce que nous avons bien vu ce qui s'est passé en 2018. La CEDEAO est venue au fond aider le pouvoir à détourner notre attention des revendications fondamentales que nous avions formulées en 2017. Nous avons assez perdu du temps. Réorganisons-nous et visons une chose et une seule, l'alternance au sommet de l'État en 2020.
Et là, c'est votre opinion, Gaëtan. Et pour certains leaders d'opinion, la coalition des 14 devrait prendre part à ces élections locales. Et déjà, le ministre de la Sécurité et de la Décentralisation, Jacques Demian, qui est reconduit à son poste, souhaite que la C14 participe à ces élections locales. Mais justement, c'est le peuple togolais qui aura le dernier mot. Nous allons continuer cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder. Alors Gaëtan, ce n'est un secret pour personne que 2019 est une année préélectorale qui annonce les couleurs de 2020. Alors comment organiser le peuple pour que la tendance soit au rendez-vous en 2020?
Oui, quand vous dites année préélectorale, cela présuppose que l'alternance au sommet de l'État se fera forcément par des élections et des élections démocratiques. Bon, évidemment, c'est le souhait de tous. C'est mon souhait le plus cher. Nous souhaitons tous que ce pouvoir entende raison, que des élections claires et transparentes soient organisées l'année prochaine, en respectant et le code électoral et la constitution que nous avons votée en 1992. Cela dit, il serait naïf de notre part de ne pas se préparer au pire, et donc je crois que pour ce qui nous concerne, nous devons dès à présent commencer par sensibiliser nos populations, mettre en place les structures qu'il faut, pour que le moment venu, si besoin en était, ces populations-là puissent rentrer en résistance civile pour faire barrage à toute tentative de passage en force de ce régime. Il faudra que l'année prochaine, si le régime RPT Unir tient à se maintenir au pouvoir en dépit du bon sens et en dépit de toutes les normes démocratiques, les populations togolaises de chaque ville et de chaque village puissent d'elles-mêmes rentrer en résistance et puissent d'elles-mêmes contraindre ce régime à passer la main, à faire, à réaliser l'alternance. Voilà, je crois, la manière la plus sûre pour nous d'arriver enfin à faire entrer le Togo dans une ère, je dirais presque dans une ère civilisée, ou du moins dans une ère démocratique.
Donc, selon vous, toute organisation doit se baser sur la résistance dans chaque ville, village, dans chaque famille. Alors, sur la base des différents facteurs qui ont empêché l'accomplissement de l'alternance, nombreux sont ceux qui estiment qu'il nécessite l'organisation des mouvements citoyens, notamment au sein de la diaspora. Nous sommes de la diaspora. Alors, comment peut-on organiser les forces pour contrebalancer le rapport de force?
Oui, la problématique de la diaspora reste pleine et entière. Ce qui est tragique, c'est que la diaspora togolaise, dans toutes ses composantes, est très engagée dans le combat pour l'alternance au Togo. Les gens se sentent concernés par le sort de leur pays, par le sort de leurs frères et sœurs restés au pays. Seulement, nous n'arrivons pas à coordonner nos organisations et nos forces pour peser dans la balance. Et je crois que là-dessus, les leaders d'opinion devraient, à la longue ou même à très court terme se ressaisir pour voir comment mettre toutes les organisations de la diaspora en relation les unes avec les autres et comment mettre tout ça en musique. Il ne sert à rien d'avoir une multitude de groupuscules qui s'agitent à gauche et à droite et qui ne forment pas un bloc véritable capable de peser dans la balance. Et là, véritablement, je crois que les militants, les Togolais, disons, de la diaspora, sont suffisamment mobilisés, suffisamment engagés, mais que on manque de leadership. Je crois qu'il faudra que les uns et les autres réfléchissent à la manière dont cette diaspora là doit se réorganiser autour d'un pôle unique pour faire pression sur le régime.
Gaëtan Gbati Soumarou, dernière question sur la crise sociopolitique au Togo. Pas de réforme, pas d'élection, c'est le slogan fétiche. Aujourd'hui, on conjugue au passé les élections législatives sans qu'une seule réforme soit opérée. Alors, doit-on compter les locales et la présidentielle sans les réformes?
Je pense qu'il faut prendre le problème par un autre bout. Je pense que la question n'est pas de savoir si on va ou pas aux élections avec ou sans les réformes. Non, je crois que le problème se situe ailleurs. Le problème face à un régime tel que le régime togolais se situe vraiment sur le terrain du rapport de force. Que ce soit les réformes, que ce soit les élections, rien au Togo ne s'obtiendra si nous n'avons pas un rapport de force qui nous est favorable. Alors, soyons clairs, le régime en place a toujours compté sur l'armée et les forces de police pour se maintenir au pouvoir. Et nous avons, face à ces forces armées-là, nous n'avons d'autre choix que de compter sur les populations et le soutien massif des populations pour créer un rapport de force qui nous sera favorable et qui contraindra ce régime à accepter les concessions nécessaires à l'alternance. Et c'est à ce rapport de force qu'il faut que dans la prochaine période on s'emploie à travailler. En 2017, on a réussi pendant quelques mois à créer ce rapport de force favorable. Malheureusement, nous nous sommes laissés un peu divertir par la CEDEAO et sa feuille de route. Et ce rapport de force a été perdu, ou plutôt le régime a réussi à inverser le rapport de force. Voilà ce qui nous a conduit au fiasco. Je crois qu'il faut recommencer. Et je crois que en s'y mettant dès maintenant, nous arriverons de nouveau à remettre la mobilisation à un niveau tel que le pouvoir n'est pas d'autre issue que de faire les concessions qu'il faut afin de garantir l'alternance au sommet de l'État.
Gaëtan Baptiste Marou, merci de votre disponibilité dans cette émission. Fenêtre sur l'Afrique, sur Radio Canal Cancer Salmanique et sur Radio Avolété, la voix de la résistance du peuple togolais. Vous allez aussi commenter l'actualité politique africaine avec nous. On vous sait un grand panafricain et votre mouvement CLITD, cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique, a commencé depuis décembre 2011. Un combat pour la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo, donc en tout presque 8 ans. Alors, Gaëtan Baptiste Oumarou, Fatou Ben Souda, la procureure de la CPI, fait appel après que les juges aient ordonné l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ils doivent rester en prison temporellement, selon la CPI. Alors, ce procès remet-il en cause la crédibilité de la CPI, selon vous?
Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi de saisir l'opportunité que vous m'offrez pour remercier mes camarades du CRITD avec lesquels ensemble nous avons mené ce combat pour la libération du président Gbagbo. Je saisis aussi l'occasion pour remercier nos amis ivoiriens du CATSI, et notamment Ben Yeba et Jean Tillman, avec lesquels nous avons mené ce combat tous ensemble. Je remercie enfin mon ami Guy Laberti, dont tout le monde connaît l'engagement pour la cause ivoirienne et dont tout le monde connaît le combat pour la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Cela dit, est-ce que la CPI a perdu de sa crédibilité? Oui, bien sûr. La CPI vient de connaître son troisième échec retentissant. Mais je serai un peu plus précis. Au fond, ce n'est pas la CPI en tant qu'institution qui a perdu en crédibilité. C'est le bureau du procureur. Heureusement qu'il y avait des juges qui voulaient bien dire le droit, comme le juge président Tarfuser, mais le bureau du procureur a fait beaucoup de mal à la CPI en voulant faire de la politique et non du droit. Et donc, il faudra que la CPI prenne un certain nombre de mesures si elle veut survivre et si elle veut retrouver de sa crédibilité. Je crois d'ailleurs qu'il y a deux mesures urgentes à prendre, sans plus attendre. D'abord, il faut mettre immédiatement Gbagbo et Blé Goudé en liberté. Personne ne peut comprendre aujourd'hui que deux personnes acquittées et donc innocentes soient maintenues en prison. Sans aucune raison, sans aucune base juridique, et que cela n'ait pas de conséquences sur la CPI. Donc il faudra absolument remettre en liberté dans les plus brefs délais le président Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. La deuxième mesure urgente à prendre, c'est de se séparer de Fatou Ben Souda et de son équipe. Ce procureur et son équipe ont montré leur incompétence à la face du monde entier, leur incompétence à enquêter et leur parti pris aux côtés pour le camp des vainqueurs. Et donc, pour retrouver un peu de crédibilité, la CPI devra immédiatement se séparer de ce procureur et nommer un nouveau procureur qui veut bien exercer son métier de procureur et non faire de la politique. Voilà ce que je pense pour l'heure d'urgent à faire pour que cette CPI retrouve un peu, disons, l'idée noble pour laquelle elle avait été créée, à savoir rendre justice aux victimes.
Très bonne réaction d'ailleurs. Y a-t-il une main noire derrière ce feuilleton dans l'affaire Gbagbo et Blé Goudé? Gbagbo et Blé Goudé seront-ils libérés sous condition, vu la pression et la détermination des peuples africains, surtout des Ivoiriens?
Disons, la main noire qu'il y a derrière toute cette affaire, c'est évidemment la France-Afrique. C'est les réseaux France-Africains qui ont capturé Laurent Gbagbo. et qui ont activé le bureau du procureur pour qu'il fasse déporter Laurent Gbagbo à la haie, afin de libérer la voie à leur pion qui est Alassane Dramane Ouattara. Et ce sont ces mêmes réseaux, dans le temps pilotés par Chirac, ensuite pilotés par Sarkozy, qui se sont démenés pour maintenir Laurent Gbagbo pendant toutes ces années en prison. Et je suis persuadé que ce sont encore ces mêmes réseaux qui font tout pour empêcher la CPI de libérer Gbagbo et Blegoudé, alors que ces derniers ont été purement et simplement acquittés. Et je crois que la manœuvre qu'il y a derrière, c'est évidemment de faire en sorte que Gbagbo ne puisse pas rentrer en Côte d'Ivoire pour, disons, quelque part, contrecarrer leur plan qui se dessine et qui se précise de plus en plus, c'est-à-dire leur plan de faire en sorte que Ouattara puisse briguer un troisième mandat. Mais je crois que le peuple ivoirien est debout, et je crois d'ailleurs que tout le peuple africain est debout et ne pourra pas permettre à cette forfaiture, cette énième forfaiture de se perpétrer. Donc oui, il y a des gens qui manipulent derrière en coulisses le bureau du procureur pour judiciariser au fond la vie politique ivoirienne. Mais non, je ne pense pas que ces gens-là réussiront indéfiniment à empêcher la Côte d'Ivoire d'évoluer vers sa souveraineté pleine et entière. Ce qui se joue en Côte d'Ivoire est quelque part illustratif de tout ce qui se joue dans le reste de l'Afrique, et c'est pour cela que tous les peuples africains, en tout cas dans beaucoup de pays, les peuples sont extrêmement sensibilisés à la cause ivoirienne, que ce soit au Togo, au Cameroun ou dans d'autres pays. Je vois qu'il y a des gens qui se mobilisent, et surtout des jeunes qui sont mobilisés pour cette cause ivoirienne, parce que tout le monde sent que cette France-Afrique-là essaye désespérément de garder la main sur l'Afrique, et plus particulièrement sur l'Afrique francophone. Et tout le monde sent que pour notre émancipation, pour qu'on se sorte du sous-développement chronique dans lequel on est plongé, il faudra résister à cette France-Afrique, il faudra s'en débarrasser pour qu'on puisse reprendre notre destin en main.
Alors, libération conditionnelle ou inconditionnelle de Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé, quelles conséquences sur la politique de l'Afrique subsaharienne, notamment celle de la Côte d'Ivoire?
D'abord, je tiens à préciser que nous militons pour une libération pure et simple de Gbagbo et de Blegoudé. Je ne vois pas pourquoi deux personnes innocentées, deux innocents acquittés, avaient des charges qui pesaient contre elles, seraient maintenues en prison ou seraient libérées sous condition. Et ils sont innocents, ils ont été acquittés, ils doivent être libres, un point, c'est tout. Si cela dit, en dépit de tout mon sens, on décidait de leur accorder une libération conditionnelle, ce serait déjà ça de prix. Mais nous, au CRI-TD, nous militons et nous continuerons de militer pour une libération pure et simple de Gbagbo et de Blegoudé. Cela dit, évidemment que la libération de Gbagbo constituera un fait majeur pour l'émancipation du continent. J'ai l'impression que l'Afrique est de nouveau à l'orée d'une décennie qui va connaître de grands bouleversements. J'ai l'impression que nous sommes dans une situation un peu équivalente à celle de la décennie 90, après la chute du mur de Berlin. où nous avons connu un certain nombre d'événements et notamment une série de conférences nationales. Je crois que l'Afrique va de nouveau rentrer dans une phase accélérée de son histoire. Et le retour de Gbagbo sur le continent sera une sorte de top départ pour ces bouleversements-là que nous souhaitons pour notre part de tout cœur. Il faudra que les peuples soient extrêmement vigilants pour que cette fois-ci, les choses bougent dans le bon sens. Le peuple congolais en a donné l'exemple. Il faudra que les autres peuples suivent pour que, disons, ceux qui ont toujours pillé ce continent et ceux qui ont toujours maintenu les Africains dans une misère noire ne profitent pas pour de nouveau se jouer de nous. En nous faisant miroiter des grands principes et en pillant par derrière nos richesses. Donc, les bouleversements qui s'annoncent doivent être cette fois-ci des bouleversements au profit des peuples africains et non plus au profit des multinationales ou des métropoles occidentales. Voilà un peu le sens que va prendre, de mon point de vue, le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire sur la terre africaine.
Parlons maintenant de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Et malgré l'injonction de l'Union africaine qui remet en cause la crédibilité de la Cour constitutionnelle de la RDC, cette dernière valide la victoire d'Étienne Tshisekedi, qui a prêté serment devant toute la nation congolaise. Alors, l'alternance est une réalité en ère des Congo. Qu'est-ce que vous dites, que c'est vraiment la fin de Joseph Kabila, vu qu'on parle quand même d'une fameuse alliance entre Tshisekedi et Kabila?
Non, je ne pense pas que ce soit la fin de Joseph Kabila. Je crois que Kabila a eu l'intelligence d'éviter les pièges que lui tendaient un certain nombre de ses adversaires. Et notamment, je crois qu'il a eu l'intelligence de pouvoir sentir venir et de pouvoir déjouer les complots que montaient contre lui, notamment les anciens colons belges et leurs alliés français. Je crois que le fait d'avoir permis une alternance au sommet de l'État, le fait d'avoir permis à l'UDPS d'accéder au pouvoir le réhabilite grandement aux yeux du peuple congolais. Et je crois que à partir de maintenant, les gens ont compris que ce qui se joue ou ce qui se disait sur Joseph Kabila était largement inspiré par le désir des anciens colons belges et de leurs alliés français de garder la main sur les richesses du Congo. Et au fond, actuellement, on assiste au Congo à une bataille féroce entre les Chinois, les Russes, et les anciens colons et les anciens maîtres du Congo que sont les Occidentaux. Et ce qui se joue aujourd'hui au Congo va se jouer dans beaucoup d'autres pays. Et j'espère que les peuples de ces différents pays seront aussi vigilants que le peuple congolais pour ne plus se laisser manipuler, parce que c'est ce qui, jusqu'à présent, a permis à ceux qui pillent nos richesses de pouvoir le faire impunément. Maintenant, est-ce que Tshisekedi aura l'intelligence de bâtir sa politique sur des valeurs d'émancipation, sur les bases que lui laisse Joseph Kabila? Ben, c'est l'avenir qui va nous le dire.
Si la Cour constitutionnelle en RDC confirme l'élection de Félix Tshisekedi, la France avait contesté ces résultats-là et Martin Fayoulou s'était aussi s'autoproclamé président. Et finalement, l'Union européenne accepte de collaborer avec Étienne Tshisekedi. Alors, Gaëtan Gbatizoumarou, quelle analyse faites-vous de l'implication de la communauté internationale dans l'élection présidentielle en RDC.
Mais ce qui s'est passé, vient de se passer au Congo, est riche d'enseignements pour nous tous. Je crois que les Congolais ont démontré que Paris et Bruxelles ne constituaient plus les centres de décision de ce qui convenait ou ne convenait pas au Congo. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a beau déclarer que les élections au Congo n'étaient pas conformes à ce que lui, il attendait, le peuple congolais lui a prouvé que c'était pas à lui de décider de ce qui était conforme ou de ce qui était bon pour le Congo. Et ça, je suis persuadé que ça va faire tache d'huile. Ensuite, je crois que beaucoup de leaders ou beaucoup d'hommes politiques africains feraient bien d'observer scrupuleusement, avec attention, ce qui vient de se passer. Le temps est révolu où l'on pouvait être parachuté dans tel ou tel pays pour devenir président ou quoi que ce soit, parce qu'on était à Dubaï, à Paris, à Genève ou à Bruxelles. Martin Fayoulou a commis l'erreur de croire que c'est Paris, Genève ou Bruxelles qui lui donnerait une légitimité pour gouverner au Congo. Eh bien, le peuple congolais lui a prouvé que, au fond, être à Dubaï, désormais pas Paris ou Bruxelles, constituait plutôt un handicap. Les gens, je crois, se rendent compte qu'aujourd'hui, il est préférable de choisir des hommes politiques que l'on connaît et que l'on a pratiqué, qui se sont battus au quotidien avec eux comme dirigeants, plutôt que d'attendre que Paris ou Bruxelles, soit par un coup d'État ou par d'autres subterfuges, nous parachute des chefs d'État ou ce que moi je qualifie de gouverneur à peau noire. La décennie qui commence, comme je le disais, va être riche en bouleversements et je suis persuadé que ceux qui tireront leur épingle du jeu seront les peuples qui véritablement décideront de rentrer ou plutôt de se saisir de leur souveraineté et de devenir des peuples véritablement indépendants.
Dernière question pour terminer cet entretien exclusif avec vous, Gaëtan Baptiste Omarou. Quelle leçon peut tirer l'ensemble de l'opposition togolaise de cette alternance en République démocratique du Congo? Et l'année 2019 étant une année préélectorale qui annonce les couleurs de 2020, alors que faire pour que l'alternance soit une réalité au Togo en 2020? Et en gros, que direz-vous pour conclure cet entretien exclusif, Gaëtan Baptiste Omarou?
Oui, vous savez, moi, je suis très méfiant par rapport au copier-coller en politique. Je crois que chaque peuple dispose en son sein du génie nécessaire qui lui permet de se sortir d'affaires quand il se retrouve confronté à des situations difficiles. Je crois qu'à l'instar du peuple congolais, le peuple togolais trouvera lui aussi sa propre voie de sortie de crise. Bon, cela dit, je suis quand même en admiration par rapport au travail de fourmi réalisé par l'UDPS au cours de toutes ces années-là pour former ces militants, les structurer et les préparer aux grands enjeux qui se sont joués ces derniers temps-ci. Je crois que les formations politiques togolaises feraient bien de s'inspirer du travail fait par l'UDPS et former leurs militants pour que ceux-ci puissent aider les leaders à réaliser l'alternance. Si aujourd'hui l'UDPS a pu mettre son leader au pouvoir, c'est parce que la base formée a été suffisamment vigilante pour aider Félix Tshisekedi à se sortir du piège qu'on lui a tendu à Genève, où il a dû signer des accords à tout le moins curieux. Je crois que l'année prochaine, les Togolais, de toutes les façons, réaliseront leur alternance. Mais je souhaite que nos frères ennemis d'en face, nos frères ennemis du RPT Unir, se rendent compte qu'il est temps qu'ils se saisissent de la main que nous leur avons toujours tendue. Pour ma part, je souhaite que l'alternance qui va avoir lieu au Togo se fasse de la façon la plus harmonieuse possible, ensemble avec tous les Togolais, quel que soit leur bord politique, et que donc les gens qui sont toujours conscients au sein du RPT Unir se disent qu'il est temps qu'ils acceptent, qu'ils ouvrent le jeu politique et qu'ils acceptent que d'autres puissent aider eux aussi à la construction de ce pays. La jeunesse du Togo le mérite, le peuple togolais le mérite. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, Gaëtan Baptiste Soumarou. Je rappelle à nos fidèles auditrices, auditeurs de radio, Canal K de Radio Avolété, que vous êtes coordinateur de CRITD, cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique. Vous êtes également un grand panafricain togolais. Merci et bonsoir.
Radio Avolété, la voix de la résistance du peuple togolais.
De votre fidélité sur le 3xW.canalk.ch et sur Radio Avolété. Restez des nôtres pour suivre la radiovision de nos interviews exclusives avec nos invités David Pelli et Emmanuel Sogadi, qui a également eu un entretien exclusif avec notre correspondant au Togo, Rodrigue Ayego. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres actualités sociopolitiques au Togo et dans d'autres pays en Afrique. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout en résistance sur Radio Avolété. Kokule de Tinta et bonsoir.
Canal K, Canal K, Canal K, Canal K.
Radio à vous l'été.
Interview. Analysant. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur
Radio à vous l'été. Radio à vous l'été.
La voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.
Merci beaucoup à l'artiste togolaise Vicky Bila pour cette chanson des braves, je dirais même des canletos. Et comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis Bamako, au Mali, nos invités David Pelli, activiste, blogueur, membre de la diaspora togolaise au Mali, qui va justement commenter et analyser la crise politique au Togo, l'élection présidentielle en RDC, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPJ. David Pelli, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio Avolété.
Bonsoir Monsieur Amos, merci de m'avoir invité à votre émission. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous mes compatriotes togolais.
Eh bien, nous allons aborder d'abord la crise politique au Togo, nouvelle législature après des élections législatives très controversées. Et là, dans sa configuration actuelle, David Pelli, l'Assemblée nationale représente-t-elle le peuple togolais selon vous?
Monsieur Amos, je pense qu'il faudra qu'on dise les choses par leur nom. Nous n'avons pas de législature, c'est-à-dire nous n'avons pas d'Assemblée nationale. Nous n'avons pas d'Assemblée nationale parce que nous n'avons pas élu de députés. Il est temps qu'on dise les choses comme elles doivent être dites. Nous avons tous vu le 20 décembre 2018 que les Togolais ne sont pas sortis pour aller voter. Donc, notre parlement est rempli aujourd'hui de gens dont nous ne voulons pas. Je crois que le minimum de respect qu'on doit devoir à un peuple, c'est de le faire représenter par les gens qu'il a désignés. Mais si on doit nous nommer des députés désormais au Togo, c'est-à-dire on s'en va choisir des gens que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève, des gens en qui nous n'avons aucune confiance, des gens avec lesquels nous sommes liés par aucun contrat. On s'en va nous chercher ces gens-là et on nous impose de les appeler députés. Et je crois que nous ne pouvons pas tomber plus bas que cela au Togo. Moi, j'ai fait un live Facebook dans la semaine où je disais que même mon cadavre n'appellera jamais ces gens-là qui siègent aujourd'hui dans notre Assemblée nationale. Moi, même mon cadavre ne les appellera honorables parce que je ne me reconnais pas en eux. Je crois qu'il faut qu'on se doive le minimum de respect dans un pays. Donc, qu'on nous force à appeler ces gens-là députés ou honorables ou je ne sais quoi, je ne le ferai pas. Et je crois que normalement, tout Togolais qui garde encore une certaine dignité, qui garde encore un certain respect de soi aujourd'hui, doit devoir être clair sur ce point. Aucun de ces hommes-là qui siègent aujourd'hui dans notre parlement ne mérite d'être considéré comme nos ministres. Ça leur fait mal. Certains d'entre eux, on les voit dans les émissions, ça leur fait très mal quand on leur dit qu'ils sont des députés nommés. Oui, ils sont des députés nommés parce que personne n'a voté pour eux. Il faudrait qu'ils fassent avec ça. Personne n'a voté pour eux, donc ils sont des députés nommés. Et aucun Togolais, du moins l'écrasante majorité des Togolais, ne se reconnaissent en eux. C'est aussi simple que cela, M. Amos.
En tout cas, le peuple togolais du Sud au Nord avait respecté le mot d'ordre lancé par la coalition des 14 et moins de 10% des Togolais ont participé aux dernières élections législatives. La question de savoir s'il faut parler de légitimité ou de légalité, David Pelli, c'est ce que vous venez d'ailleurs de développer dans votre première analyse. Alors, quelle va être selon vous la nature des réformes politiques que peut proposer une assemblée à majorité unie?
Je n'ai jamais cherché à savoir la nature des réformes que ces gens-là vont proposer, parce que je venais de le dire, je ne me reconnais pas en eux. Donc, ça ne m'est jamais venu de d'imaginer ou de chercher à me poser des questions sur les réformes qu'ils pourraient faire à l'Assemblée, parce que, comme je le dis, je ne me reconnais pas en eux. Donc, je ne suis pas concerné par les réformes qu'il peut faire. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme réforme. Nous savons les réformes que nous voulons au Togo. Nous savons les réformes que nous voulons. Donc, on sait que cette assemblée-là n'est pas en mesure de nous faire ces réformes-là. Donc, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas dans ça. Nous avons été clairs sur nos demandes de réformes. Et là, on se retrouve avec des gens avec lesquels on ne partage en rien les mêmes aspirations, les mêmes motivations. Donc, quand on me demande aujourd'hui quelles sont les réformes que ces gens-là feront à l'Assemblée nationale, je crois que je ne suis pas en mesure de répondre à ça, et justement pour la seule raison que je n'ai jamais cherché à savoir la nature des réformes qu'il doit faire à l'Assemblée. Donc, Monsieur Amos, sincèrement, je ne sais pas. Parce que, je viens de le dire, nous avons défini les réformes, et que ce soit les réformes constitutionnelles, institutionnelles, électorales que nous voulons, la limitation des mandats, le redécoupage électoral, le vote de la diaspora. Et si nous n'avons pas ça, la reconstitution de la Cour constitutionnelle, la reconstitution de la CENI, nos réformes n'ont jamais changé, elles ont toujours été les mêmes. Et tous ces gens-là qui siègent aujourd'hui et qui disent qu'ils sont nos députés, qui ne nous représentent pas, on a eu tout le temps pour comprendre qu'ils ne sont pas dans notre logique. Donc Je ne me suis jamais questionné sur la nature des réformes qu'ils vont faire à l'Assemblée parce que ça ne m'a pas trop intéressé. Ça ne m'intéresse pas, monsieur Amos.
Justement, David Kelly, beaucoup de Togolais pensent d'ailleurs comme vous. Parlons de cette condamnation de Folie Sativi. Il est le président du mouvement citoyen en aucun cas. Folie Sativi est condamné à 36 mois de prison, dont 12 avec sursis. Alors, que vous inspire ce procès?
Monsieur Amos, c'est une honte. C'est une véritable honte, ce procès. Folie Sativi, voilà un pauvre garçon. Voilà un simple étudiant que les autorités togolaises, que ce régime démoniaque est en train de radicaliser totalement. Voilà un garçon dont la seule faute est d'avoir réclamé de meilleures conditions de vie des étudiants togolais. Et il est devenu l'ennemi à abattre de tout un régime qui met en place tout l'appareil d'un État, l'appareil répressif, militaire, judiciaire d'un État pour faire mal à un enfant qui n'a commis aucune faute. On crée des chefs d'accusation, on crée des problèmes, on invente des chapeaux qu'on lui porte. Mais j'ai écouté les chefs d'accusation. On l'accuse d'avoir voulu organiser une manifestation. On l'accuse d'avoir voulu bousculer les forces de l'ordre. Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un au Togo qui peut avoir le culot? Avec ces forces de l'ordre-là que nous connaissons, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui peut oser vouloir défier ces gens-là? Ces gens qui ne reculent devant rien quand il faut maltraiter les civils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vouloir les défier? Mais voilà des chefs d'accusation qu'on invente de toutes pièces pour juste emprisonner un garçon qui ne leur a rien fait. Nous avons tous vu la vidéo de la mère de Folie Sativi lorsque le procès de son fils a été prononcé. Regardez toute la douleur de cette femme. Regardez toute la douleur de cette femme. Nous connaissons toutes nos mères. Nous connaissons les femmes togolaises, comment elles se battent pour inscrire leurs enfants. La femme était en train de se lamenter qu'elle vendait de la bouillie. Elle a vendu de la bouillie pour inscrire son enfant. Mais monsieur Amos, comment est-ce qu'on peut être dans un pays avec un tel niveau de cruauté? Qu'est-ce que ce garçon-là a fait de si mauvais pour qu'on le jette en prison pour 2 ans? Parce que la sentence, c'est 3 ans de prison avec 1 an de sursis. Si je me souviens très bien, c'est le même garçon qu'on avait jeté en prison, entre-temps, il y a quelques mois seulement, pour ses revendications étudiantines. Et c'est le même garçon dont on a brûlé la maison. Mais comment est-ce qu'on peut traiter un citoyen et de surcroît un jeune étudiant de cette manière? Comme s'il était un criminel, s'il était un gangster, comme s'il était un escroc. Même les gangsters, même les criminels, même les escrocs, on ne les traite pas avec cette animosité. Ce procès est une honte. Et ce sont des choses qui resteront toujours dans l'histoire de notre pays, parce que ce sont des pages très douloureuses de notre histoire.
Procès de Folie Sativi, président du mouvement citoyen en aucun cas. Procès de la honte, vous avez dit. David Pili, abordons maintenant les questions autour de l'acquittement de Laurent Koudou-Bagbo, Charles Blegoudé, toujours maintenu à la prison. Alors que vous inspire le feuilleton qui se joue à la Cour pénale internationale autour de Laurent Gbagbo et Blegoudé?
Bon, ce procès, si c'était peut-être pas que la vie de deux leaders et pas des moindres de ce continent est en jeu, on pourrait en rire parce que vous l'avez nommé feuilleton, c'est un véritable feuilleton. Mais là, comme c'est la vie de deux grands leaders de notre continent qui se joue, et ça ne fait pas trop rire. Mais ce qu'il y a à dire quand même, c'est que dans ce procès-là, la CPI a perdu totalement sa crédibilité. Parce que, d'abord, c'est une institution qui a été toujours critiquée parce qu'elle ne juge que les Africains. Et nous avons tous suivi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a deux camps qui se sont affrontés avec des morts. Et là, la CPI vient, on jette une partie en prison, et pendant 7 ans, et on se rend compte que non, ce qu'on a fait, on est parti trop loin, on acquitte les accusés et on refuse de les libérer. Et c'est à un moment quand même, et c'est triste. C'est très triste d'assister à des situations de ce genre. Parce que on est quand même devant un appareil judiciaire. C'est-à-dire un appareil devant lequel tout citoyen peut courir pour réclamer justice. Mais quand on se retrouve dans une situation où c'est cet appareil judiciaire-là même qui devient un objet de manipulation entre les mains de certaines puissances, mais ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal. On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que d'abord la CPI ne juge que des présidents africains. C'est vrai. Peut-être, on peut dire que cette CPI-là, quel que soit ce qu'on pourra lui reprocher, joue un rôle. Parce que nous avons quand même des justices qui sont inféodées au pouvoir dans nos pays et qui permettent aux dictateurs de tuer, de maltraiter, de faire tout ce qu'ils veulent sans craindre la justice de nos pays. Donc la CPI peut être un objet dissuasif vis-à-vis de ces chefs, de ces potentats-là qui pensent qu'ils peuvent avoir le droit de vie sur leurs citoyens quand ils ont le pouvoir. Mais quand cette CPI devient un objet pour juger juste les Africains, ça devient un problème. Et si cette CPI continue jusqu'à devenir une marionnette entre les mains d'un certain nombre de puissances, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire du tout. Et parce que ce qui se joue là depuis quelques jours, ça sort de l'ordinaire. On est dans un cynisme qui ne dit pas son nom et c'est triste. C'est vraiment triste que une cour qui siège dans un continent, qu'on nous présente aujourd'hui comme un continent, qui est le tremplin de la démocratie, je parlais de l'Europe, et qu'on nous dise que c'est cette justice internationale à quoi nous miroite aujourd'hui, comme le symbole de l'équité, le symbole de la droiture, qui se comporte ainsi, c'est triste. Donc je crois que s'il y a quelque chose quand même à faire pour cette justice-là, pour garder un peu sa crédibilité, il faut libérer Laurent Gbagbo et Blé Goudé très rapidement. Et pour qu'on en finisse une fois pour de bon, pour cette grande honte.
Alors, David Kelly, selon vous, qu'est-ce qui empêche leur libération et que dire des agissements de la procureure Fatou Bensouda?
Bon, je viens de le dire, Madame Fatou Bensouda, peut-être qu'elle ne voit pas trop aujourd'hui ce qu'elle est en train de préparer elle-même, mais je venais de le dire, elle travaille pour une institution qui s'est décrédibilisée depuis, et ça continue aujourd'hui dans une lancée où on sent réellement que les décisions ne sont pas droites, les décisions ne sont pas justes, c'est juste un certain nombre de puissances qui tire cette cour-là comme une marionnette, qui tire la procureure Fatou Bensouda comme une marionnette, et c'est triste. C'est triste. Donc peut-être MMM ne se rend pas compte de l'impact que cet agissement-là a sur son continent d'origine qui est l'Afrique et l'image qu'elle est en train de renvoyer. Je pense que c'est très triste. Tout ce procès de Laurent Gbagbo-là est très triste, sincèrement.
David Kelly, selon beaucoup d'Africains, ce procès remet en cause la crédibilité de la Cour pénale internationale. Quel est votre avis là-dessus?
Oui, monsieur Amos, bien sûr que ce procès remet totalement en cause la crédibilité de la CPI. Ce procès remet en cause la crédibilité de la CPI. Sa crédibilité était déjà remise en cause, je venais de le dire, depuis longtemps, quand on s'était rendu compte que cette institution ne juge que les présidents africains. Et là, quand on se rend compte également qu'il y a deux partis qui s'étaient affrontés en Côte d'Ivoire, mais la CPI n'a jugé bon que d'arrêter une partie de la jeter en prison, alors que l'autre partie, le camp de M. Ouattara, jouit totalement d'une liberté où les anciens rebelles occupent même de grands postes de responsabilité actuellement en Côte d'Ivoire, et on se retrouve avec l'autre partie qui est traqué. Et on se dit que la CPI n'a plus sa crédibilité. Et quand on voit ce qui se passe depuis 3 jours ou depuis 4 jours, depuis une semaine, où on prononce des sentences, on revient sur ces sentences, on fait appel, tout ce que vous avez appelé feuilleton, tout ce scénario macabre-là, fait perdre définitivement à la CPI le peu de crédibilité qui lui restait, sincèrement.
David Pelli, merci de nous accompagner en ligne depuis Bamako, Mali, abordant à présent les sujets concernant l'élection présidentielle en RDC. L'alternance est une réalité en RDC Congo avec la victoire de Félix Tshisekedi. Est-ce vraiment la fin de Joseph Kabila selon vous?
Est-ce que l'élection de M. Félix Tshisekedi
met fin au règne de Monsieur Kabila. Ça, je ne sais pas si je peux répondre à cette question avec certitude, parce que bon, si on prend le problème de manière théorique, je sais pas, oui, et ça met fin à son régime parce qu'il n'est plus président. Maintenant, quand on rentre dans les faits, ce qui va se passer, ce sera beaucoup plus compliqué parce qu'on va se retrouver, selon les résultats qu'on a, avec un Sénat, je crois, qui est dominé par les pro-Kabila. Quand on considère également toutes les informations qui viennent et les conditions dans lesquelles les choses se sont passées, on sent quand même que derrière l'élection de Monsieur Tshisekedi, il y a la main et les manœuvres de Monsieur Kabila. Donc, et tout porte à croire qu'il y a eu quand même des négociations qui ont été faites. Donc, si on veut se référer à ce qui se dit dans beaucoup d'endroits, qui ne sont pas des moindres, qui sont informés, très informés des fois, on tend vers une situation où M. Tshisekedi dirigera avec la main de M. Kabila. Mais il faut quand même dire que nous sommes dans un jeu politique où tout le monde a envie d'avoir les mains libres, a envie de décider. Donc, il ne faut pas non plus, je sais pas, faire trop de suppositions, parce que M. Tshisekedi sera président si tout se passe bien, parce que la Cour constitutionnelle vient de valider les résultats. Donc, si tout se passe comme ce qui a été décidé par la Cour constitutionnelle, M. Tshisekedi sera président. Et il aura des pouvoirs parce qu'il est président. Donc il pourra décider des choses qui ne seront pas nécessairement des choses que lui dicterait M. Kabila. Donc dire que M. Tshisekedi serait totalement une marionnette de M. Kabila, en théorie peut-être, mais la pratique du pouvoir peut des fois nous réserver des surprises. On a vu la situation dans certains pays déjà, où des présidents ont cru miser sur des dauphins, mais des dauphins qui les ont totalement pris à contre-pied. On donne le cas de la Russie pour montrer ce qui s'est passé avec M. Poutine, mais je crois que c'est pas des situations peut-être qu'il faut rapprocher tout le temps. Il peut y avoir des situations différentes. Et donc, en théorie, comme je le dis, l'élection de M. Tshisekedi met fin au règne de M. Kabila, mais il va falloir attendre pour voir réellement ce qui va se passer. On ne peut pas faire des suppositions actuellement et penser qu'on est dans l'absolue vérité. Il faudra voir.
Et justement, pour beaucoup de Panafricains, surtout des Congolais, c'est le wait and see. Alors, écoutez David Kelly. Si la Cour constitutionnelle RDC confirme l'élection de Félix Tshisekedi, la France, quant à elle, poursuit sa contestation des résultats et Martin Fayoulou s'autoproclame président. Quelle analyse faites-vous de la situation qui prévaut en RD Congo?
Il y a quand même une grande aberration dans ce qui est en train de se passer au Congo et dans ce qu'on avait remarqué ou bien dans ce qu'on avait vu quand les élections étaient proclamées par la CENI, où on voit Monsieur Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, qui émet des doutes sur la crédibilité des résultats donnés. Et c'est quand même une situation surréaliste qui aurait beaucoup étonné si on n'était pas dans un contexte africain où on connaît les relations que ces puissances ont avec les pays africains. Parce qu'un pays souverain qui proclame des élections et un ministre d'un autre pays qui conteste immédiatement ces résultats, il faut quand même se poser beaucoup de questions. Mais on est dans un contexte africain où on sait que nos États ne sont pas nécessairement toujours les vrais décideurs de leur destin. Donc cette situation est passée et on l'a même vue comme étant anodine parce qu'elle n'était pas isolée. On la voit dans beaucoup de pays où ce sont les responsables occidentaux qui parlent beaucoup plus ou bien qui déterminent les chemins que doivent prendre les destins de nos pays. Mais quand même, c'est embêtant ce qui se passe là. quand ça devient trop récurrent, quand ça devient trop flagrant, c'est quand même très embêtant. Donc je crois que la France a intérêt, et même si je sais que en le disant ça ne changera pas grand chose, la France a intérêt quand même à laisser la RDC décider de son destin. La France a intérêt à laisser la RDC décider son destin, surtout que la même France, on la voit dans beaucoup de situations, comme le Togo, comme le Cameroun, ou comme le Gabon, où elle ne bronche pas sur des élections que tout le monde a remarquées et a vues comme étant des élections très frauduleuses. En 2005, on a vu des militaires qui sont rentrés dans des bureaux de vote et qui ont volé des urnes et qui ont couru avec ces urnes-là devant des caméras. Il y a encore des vidéos qui sont là. Au Gabon, on a vu ce qui s'est passé avec la récente élection, réélection entre guillemets, de Monsieur Ali Bongo. Au Cameroun, on a vu ce qui s'est passé et la France n'a pas bronché. Donc, je crois que aller aujourd'hui au Congo et se mettre à contester des résultats, je crois que c'est quand même aberrant, c'est très aberrant. Et comme je l'ai dit, ce que moi je dis ici, mes mots ne changeront pas grand chose à la situation, mais la France a quand même intérêt à arrêter ce mauvais cinéma là qu'il est en train de vouloir jouer en RDC.
David Kelly, comprenez-vous le rôle que joue la France dans le choix ou le maintien au pouvoir des chefs d'État en Afrique?
Le rôle que la France joue dans le maintien des chefs d'État au pouvoir en Afrique, je crois que c'est pas nouveau pour personne d'entre nous. Et la France-Afrique, on peut pas la nier aujourd'hui, c'est une réalité. La France a ses intérêts à protéger dans ses anciennes colonies. Et même si c'est pas un discours que j'aime trop tenir, parce que je me dis ça devient aujourd'hui la France-Afrique devient aujourd'hui dans beaucoup de cas un mur derrière lequel on se cache pour nous dédouaner de nos responsabilités dans l'échec de nos États. Mais ce n'est pas une réalité qu'il faut quand même nier. On peut pas nier aujourd'hui que la France a des intérêts dans des pays africains qu'elle veut protéger, et c'est pour cette raison qu'elle défend, même dans le sang, même dans le mensonge le plus grotesque, certains chefs d'État qui sont tellement, tellement mauvais jusqu'à la caricature, et comme au Cameroun, comme au Togo, comme au Congo, comme donc on ne peut pas nier cette réalité-là de la France-Afrique aujourd'hui, où la France défend ses régimes-là pour garder ses intérêts. Elle se cache généralement derrière une logique de stabilité dans ces pays, etc. Mais le fait est là, on le voit. Beaucoup de régimes aujourd'hui ont montré leurs limites depuis des décennies. Et beaucoup de chefs d'État aujourd'hui ont montré leur impopularité, mais qui continuent à se maintenir au pouvoir à travers des simulacres d'élections où tout le monde sait qu'ils n'ont pas gagné. Je venais de donner le cas du Togo, du Gabon, du Cameroun, mais que la France continue de soutenir. Donc on ne peut pas le nier, cette réalité-là. La France le fait pour ses intérêts.
Effectivement, ils sont nombreux des panafricains qui ont fait la même lecture que vous, mais nous dira-t-on que les Africains s'indignent beaucoup plus qu'ils ne s'organisent? Alors David Pelli, rapidement une dernière question. Quels sont les facteurs qui militent en faveur de ce comportement de la France selon vous?
Bon, les facteurs qui militent en faveur de cette situation d'installation totale de la France au cœur de la gestion de nos États, je crois que d'abord il faut évoquer la corruption de nos élites, et nos élites qui sont bel ou bien au courant de la situation, mais qui pensent qu'ils ne peuvent pas lutter contre cette situation et qui préfèrent s'y adapter. C'est eux les premiers d'ailleurs à être au service de ces régimes là que la France a installé à la tête de nos pays contre le consentement des peuples. Il y a également le manque de moyens de la jeunesse africaine qu'il faut évoquer, parce que on se retrouve quand même aujourd'hui avec une jeunesse qui est consciente de la situation, qui est consciente que c'est la France a une grande responsabilité dans l'échec de nos États. C'est ce qui explique aujourd'hui cette armada de discours anti-français et qu'on remarque chez la jeunesse africaine. Mais le problème, c'est que c'est des jeunes qui généralement ne sont pas des décideurs, qui n'ont pas les moyens de leur politique, comme on le dit généralement, et qui parlent, qui savent que la France fait mal à nos pays, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires, ou bien qui n'ont pas les stratégies nécessaires, qui n'ont pas les moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la situation d'un continent que tout le monde est conscient qu'on exploite, mais que personne, c'est-à-dire ceux qui peuvent réellement mettre fin à cette situation, ne le font pas. Et voilà un peu, je crois, ce qui explique cette situation qui dure depuis des décennies maintenant et qui, hélas, n'est pas loin et n'est pas près de s'arrêter.
Merci beaucoup, David Kell. Je rappelle que vous êtes activiste, blogueur. Vous nous avez accompagné en ligne depuis Bamako au Mali. Bonsoir. À vous l'été. Coucou l'été d'Enta.
Merci Monsieur Amos pour cette interview, pour l'opportunité que vous m'avez accordée. Merci à tous les auditeurs et merci aux compatriotes togolais et que Dieu bénisse le Togo.
Déterminé à réaliser l'alternance malgré l'obstination de Faure Gnassingbé à rester au pouvoir, convaincu que la minorité pieuse est réfractaire à toute idée de bonne gouvernance et conscient que les mars pacifiques à elles seules ne suffisent plus pour faire entendre raison au plus fort des Togolais et ses affidés, le souverain peuple togolais a décidé de sanctionner les barons du pouvoir en frappant leurs poches. Sans sanglots, sans ados. Station d'essence, restaurants et cafés, bars et hôtels, établissements scolaires, pharmacies, cliniques, magasins et toute autre activité lucrative de l'oligarchie doivent être boycottés. Oui, peuple togolais, lançons le boycott économique contre le régime de Faure Gnassingbé, réfractaire à toute alternance. Novio, à vous l'été. Radio, à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.
Fin de cette édition et merci de l'avoir suivi. Mais nous ne saurions vous quitter sans nous laisser ce message fort d'Albert Stan qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Et parlant justement du cas togolais, la question vous est tous posée. Que fais-je pour sauver notre patrie de Niban? Notre conscience doit nous parler. Et après plus de 50 ans, sous une dictature implacable, la résistance doit être un choix. C'est pourquoi l'artiste togolais Amène Djassissé nous convie à un dernier sursaut patriotique à travers cette chanson. C'est le dernier appel que je vous convie tous d'écouter. Merci de vous être fidèles. Novio, à vous l'été. Coucou l'été d'Enta.
Radio, à vous l'été. L'esprit patriotique.
Tâche vos ceintures. Chale yo badi la ga plemi. Élection ya badi la ga chakami. Ça ne va pas, les gens nous parlent d'élection. Le pays a problème, on nous dit d'aller voter. Tout le monde se demande, aller voter ou pas. C'est le dernier appel.
Yes, I see a gato go be my kede kill. A kokomi dava is not even you be play. I bet talk, we have better see. I mean, maletico.
No, can you not only joy? Me, Jonah, to go be cut on the baby. To go be cut on the panuki. In a to go be back for the day. Oh, baby, chame, baby, Joe, me let me. Look at me, let me, man, baby, go get me one one day. Look at me, now me, man. Nous devons rester debout.
C'est le dernier appel.
jamais les coquilles. Et ben Dieu mis les clébama. Allez mes vieux mis les clébama. Coto colio mis les clébama. Mon Fabio mis les clébama. A ne faut jamais des pembaques non. A mes si a mené non cléba cléba cléba. C'est le dernier rappel. Le dernier combat, dernier combat, dernier combat, dernier combat. Combattir la famille,
nous devons rester deux.
Combattir la famille,
nous devons rester deux.
Combattir la famille, la famille, la famille, la famille, la famille.
Yo, Togo vit seigneur que mon lait d'abord. On connaît que ton assez nous. Baka me baba flou. L'école a passé qu'un noir babble. Jacques Babana top, le bassi a gré. Sinon, tu as l'autre pas du la de sous bobo. Police active quand on est prison, prison. Côté vieux chance quand on est prison, prison. Si pas Johnson quand on est pour nous. Adia Nicodem, BG, Yébé, Béye, Nawa, Graf, Défiade, Agoye, Bézia.
La voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avolété. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple.
Fidèles auditeurs et internautes de l'émission La Voix du Peuple sur Radio à vous l'été. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Nous sommes en direct depuis Lomé, la capitale togolaise, où l'actualité, elle est donc animée par la sortie du Collège des avocats de Folie Sativi qui dénonce une manipulation de la justice togolaise. Nous allons en parler dans cette émission avec notre invité Emmanuel Sogadi. Il est le président de la Ligue togolaise des consommateurs. Pourquoi lui comme invité? C'est parce que l'actualité, c'est aussi l'histoire de riz avarié que des sociétés s'apprêteraient à déverser au pays pour porter atteinte à la santé alimentaire du peuple togolais. Nous allons également parler de cette situation et bien sûr évoquer ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec Madame Tchegan Yawa, élue présidente donc de l'Assemblée nationale. Elle vient du parti Unir. Voilà un peu les sujets que nous allons débattre dans cette émission avec notre invité Emmanuel Sogadi. Bonjour et merci pour votre disponibilité.
Bonjour.
Alors, je rappelle que nous sommes dans l'émission La Voix du Peuple et au micro pour conduire cet entretien, c'est bien sûr votre humble serviteur Rodrigue Aego. Emmanuel Sogadi, puisque c'est l'actualité, cet après-midi, les avocats de Folie Sativi ont rencontré la presse pour dénoncer ce qu'ils appellent acharnement judiciaire ou l'instrumentalisation de la justice pour faire taire des personnes qui dérangeraient le pouvoir. Vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez ou que peut-on dire de cette sortie ou cette dénonciation de ces avocats?
Oui, nous avons compris que les avocats, c'est-à-dire le collège des avocats qui plaide pour le camarade Folie Sativi, ont donné leur point de vue sur comment s'est déroulé le procès du camarade et jusqu'à ce qu'il interjette appel. Et pour nous, nous avons compris aussi que et c'est la manière de décrire la position et la jouissance de la justice togolaise actuelle. Et ça veut dire que la justice togolaise n'est pas juste comme on devait le dire, n'est pas une justice professionnelle comme on devait la souhaiter, n'est pas une justice qui est vraiment le dernier rempart des injustifiables, des justiciables. Et donc, ce qui fait que le conseil a demandé à ce que la justice soit dite et que très prochainement, des gens ne puissent pas condamner des gens par plaisir ou bien par injonction de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, mais que des gens puissent dire le droit et que des gens ne puissent pas être victimes injustement des positions des uns et des autres parce qu'ils ont dit ça ou ça. Il faut que la loi soit respectée. Et les avocats sont là pour ça. Et c'est pourquoi ils ont tenu à m'atteler ça cet après-midi. Et donc pour nous, le fait qu'ils aient intéressé cet appel, nous saluons cet acte parce que il faudrait qu'on continue jusqu'à ce qu'on épuise tous les voies de recours internes et jusqu'à ce qu'on verra là où et ça pourrait les amener.
Alors, quand on jette un coup d'œil sur les chefs d'accusation portés contre Folisa TV, quelque part, selon les avocats, ce sont des faits qui ne tiennent pas. Ils ont quand même tout le long du procès démonté les différents montages, sauf que le juge a décidé donc de la condamnation de Folisa TV. Quand on va plus loin, est-ce qu'on peut aujourd'hui commencer par comprendre que la justice est mise à profit pour inquiéter les gens qui se lèvent contre le pouvoir en place?
Je peux dire oui, mais c'est pas moi qui est en train de le dire. Il y a le rapport du ACDH, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Togo en 2013, qui l'a bien souligné. Et qui a fait ce rapport et exposait clairement les conditions dans lesquelles les juges rendent leurs décisions et le contenu, c'est-à-dire comment ils reçoivent des pressions, comment ils décident en regardant en arrière pour voir qu'est-ce que celui-ci dit. Je vais décider par rapport à ce que ce dernier et des parties prenantes viennent de me dire, ou soit la personne qui soutient une des parties prenantes aurait à me dire. Donc c'est pas moi qui dis ceci, c'est la justice, c'est le HDS qui l'a dit. Et donc ça veut dire que la justice est aux ordres des personnes, on sait qui, mais des politiques. Donc la justice n'est plus indépendante. Et le rapport l'a bien souligné, c'est ce que les avocats ont su aussi bien souligner tout à l'heure.
Est-ce qu'aujourd'hui la condamnation de Folisa TV pour 2 ans pour avoir, selon le procureur, publié des écrits sur Facebook, des captures d'écran donc par-ci par-là, ainsi de suite, la transcription par exemple des propos qu'on prêterait à l'accusé, est-ce qu'aujourd'hui ça inquiète quant à l'exercice, que ce soit de journalistes ou d'acteurs de la société civile ou d'activistes ici au Togo?
Oui, ça c'est une grande inquiétude pour nous tous, parce qu'on sait qu'au Togo on peut fabriquer n'importe quoi pour chercher à vous arrêter. Et lorsqu'on vous arrête, la décision qui leur plaît, c'est ce qu'on vous colle. Ok, quelle que soit la compétence de vos avocats, quelle que soit la qualité de leur plaidoirie, et on ne fait que ce qu'on veut de vous. Mais cette inquiétude, ne doit pas nous dissuader. Ok, parce que ça ne dissuade, ça veut dire que nous avons démissionné. Ok, mais nous allons continuer à faire le travail, à le rendre plus professionnel que nous savons toujours, comme nous l'avons toujours su le faire, pour que même s'ils cherchent à nous nuire, qu'ils trouvera difficilement des alibis. Donc c'est pourquoi nous disons que cette inquiétude, nous savons très bien qu'elle est partagée. C'est pourquoi nous exhortons également les organisations de défense des droits de l'homme au plan international à venir au secours des organisations de défense au Togo pour qu'on sache que nous existons. Parce que nous faisons ce travail sans un appui de nulle part, et avec nos moyens, nos stratégies. Mais s'il y a des victimes, c'est nous-mêmes qui en pâtissent. C'est nous-mêmes qui en pâtissent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on puisse, sur le plan international, plaider pour le respect des droits de l'homme au Togo. Les organisations internationales disent que le Togo va bien, mais si ça ne va pas, il faudrait qu'on puisse les interpeller. La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, depuis un bon bout de temps, est restée muette sur la situation au Togo. C'est vrai, pas quelques coups isolés, elle fait des déclarations, mais ce n'est pas ainsi que ça doit se faire. Dans d'autres pays, ce n'est pas ainsi que ça doit se faire. Il faut une mission d'enquête. Il faut que cette fédération qui regroupe plusieurs associations de droits de l'homme à travers le monde entier, si je me rappelle bien, 168 associations membres de cette fédération puissent intervenir et demander qu'on puisse protéger les défenseurs des droits de l'homme, les activistes des droits de l'homme. Parce que nous ne sommes pas ennemis des autorités. Nous sommes ceux qui proposent. Nous sommes ceux qui menons des activités. Et donc, en menant des activités, on veut un changement. Nous ne sommes pas là pour faire partie qui ce soit. Mais nous voulons que ça puisse aller d'une manière très, 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 très bien pour le peuple, pour les citoyens. Et donc, l'activiste n'est pas un ennemi pour un président, ni un ministre, ni toute autre autorité. Donc il faudrait qu'on puisse nous protéger comme on protège tout citoyen dans une nation, dans un État.
Alors nous savons que l'une des revendications portées par les différents mouvements de soulèvement contre le régime en place ont toujours demandé la libération des détenus politiques. Aujourd'hui on assiste beaucoup plus au procès, à ces accusés qu'on condamne à de lourdes peines. Et aujourd'hui, votre colocataire Johnson Asiba est passé par là. Police TV vient de passer par là. 48 mois ferme, 12 de sursis. Donc ça fait 2 ans d'emprisonnement. Et il reste encore Mécène Kokoroko et Joseph Eza, plus les autres personnes arrêtées dans le cadre des rafles dans les quartiers. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer par dire que le ton se durcit au niveau du pouvoir face au vent de contestation?
En principe, ce ne devait pas être le ton au niveau du pouvoir, mais ça devait être le ton de la justice. Parce que, quelque chose que le pouvoir fait, si on envoie les gens au tribunal, la justice devait être dite. Mais si la justice n'est pas dite, c'est que la justice n'est pas indépendante. Et donc, nous n'allons pas le dire que c'est le ton du pouvoir, mais c'est le ton injuste de la justice. Maintenant, c'est vrai, nous pouvons interpréter, on a le plein droit de l'interpréter, que les actions du gouvernement, c'est pour passer par tous les moyens pour intimider, c'est-à-dire des actions d'intimidation, et qui vont nous dissuader et empêcher que nous puissions aussi exercer nos libertés d'expression et d'opinion. Des gens diront que ah, vous dites n'importe quoi sur les médias, vous avez la liberté de dire ceci, ceci, d'écrire ceci, si on vous fait quelque chose. Mais si on constate ces derniers moments que la loi sur les communications électroniques, les gens commencent à incriminer le fait de publier des articles avec sans source ou autre chose, ça veut dire que journaliste que tu es, activiste que je suis, ou bien défenseur de droit que nous sommes, on peut nous coller n'importe quoi un jour. Et donc ça devient vraiment une inquiétude. Donc c'est la justice qui est aux ordres et non pas le politique. Moi je peux dire, parce que le politique lui peut tout demander. Le politique peut dire de renverser la tête de quelqu'un. Si le juge sait que la loi ne n'autorise pas ça, il peut dire autre chose. Mais si le juge le fait, ça veut dire que c'est le juge qui est corrompu. C'est pas le politique. Donc mettons la balle au niveau de la justice, parce que dans tout pareil cas, si on peut envoyer tout le Togolais au tribunal, si le juge dit je vous laisse, vous êtes libéré, on doit être libéré. Mais si le juge dit ok, si vous êtes condamné, on est condamné, le simple mot que le juge prononce, ça prend toute la vie de la personne. C'est pourquoi nous disons que les juges doivent être des hommes intègres, qui respectent la dignité humaine et qui ont la conscience humaine. Sans ces deux aspects, ils peuvent faire de n'importe quoi. C'est pourquoi nous les invitons à aller dans le sens de la conscience humaine et à ne pas suivre les ordres de ce monde, à ne pas suivre les ordres de qui que ce soit. Parce que le monde est une histoire. La roue tourne, elle tourne tous les jours. On essaie quand et où et comment elle peut s'arrêter. Nous ne voulons pas que ça s'arrête à leur niveau non plus. Même nous ne voulons pas que ça s'arrête au niveau de qu'un citoyen non plus. Nous voulons que si la roue, l'histoire va tourner avec ses roues, qu'elle tourne et non pas qu'elle ne s'arrête pas pour faire du mal à qui que ce soit. Donc, posons nos actes de telle sorte que, en vous posant la question, si tout le monde en faisait autant, si tous les juges condamnaient dans tous les pays ainsi, on parlerait aujourd'hui de la justice quelque part, ou la justice serait quelque chose où tout le monde courrait devant elle? Non. Donc, prenez les décisions de telle sorte qu'on dira un jour, au Togo, il y a des juges courageux. Au Togo, la justice, elle est indépendante. Là, tout le monde applaudira pour dire, ah, au Togo, les choses vont vraiment bien. Au lieu de dire que le Togo, la justice est aux ordres, et qui va faire fuir les bailleurs et les investisseurs. Parce que lorsque la justice n'est pas indépendante, les gens ne viennent pas dans le pays. Ils vont dire, si j'ai un problème avec un de mes clients, un de mes partenaires, cette justice-là va me condamner. Les gens auront peur de venir dans ce pays pour investir. C'est pourquoi nous disons, faisons attention et sachons ce que nous fabriquons pour nos enfants de demain. Parce qu'aujourd'hui, je suis juge. Demain, mes enfants deviendront quoi? Ils seront toujours juges? Je ne le crois pas. Ils seront peut-être comptables, peut-être avocats, peut-être défenseurs des droits de l'homme, activistes. Ils vont faire n'importe quoi comme profession. Mais si demain on les condamnait, comme toi tu avais condamné les gens hier abusivement, qu'est-ce que tu diras dans ta tombe? Parce que qu'on le veuille ou pas, même si on ne voit pas, les esprits sont là. Donc il faudrait que nous puissions faire quoi que quelque chose, que demain, ça ne puisse nous rattraper.
Au même moment que les avocats donc de Folie Sativi étaient face à la presse, à l'Assemblée nationale, les 91 députés procédaient donc à l'élection du bureau après le rejet de leur proposition d'amendement au règlement intérieur avec un mandat d'un an renouvelable pour le président de l'Assemblée. Aujourd'hui, on connaît déjà le visage qui va diriger sur les 5 prochaines années l'Assemblée nationale. Il s'agit bel et bien de Madame Tiegan Yawa. Elle est de la formation politique Unir. Il y a également dans ce bureau des noms comme Ibrahim Amemounatou et puis André Johnson de l'Union des forces de changement. Un mot sur l'élection du bureau de l'Assemblée nationale.
Oh bon, sauf que je remarque que nous avons désormais une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été le cas dans l'histoire du Togo, en ce que je sache.
Est-ce que ça va changer quelque chose dans les donnes?
Non, ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que vous avez dit que elle représente un parti politique. Elle ne représente pas un mouvement de défense des droits de l'homme pour que je puisse dire oh, elle incarne telle position. Mais elle incarne malheureusement la position d'un parti politique. Ok? Donc elle ne peut que faire la volonté de son parti politique. Si elle incarnait une position bien fixe, bien déterminée que je connais, je pourrais dire que ça peut changer la donne. Mais une femme présente à l'Assemblée, les gens peuvent dire que c'est un acquis pour dire que les femmes ont, dans l'histoire du Togo, occupé le poste de présidence de l'Assemblée nationale, mais ça ne donne aucune garantie que les choses vont aller au mieux que les parlements antérieurs, quoi. Ça ne donne pas de garantie supplémentaire. Ce que je peux dire pour la composition, les gens sont venus du UNI, les gens sont venus du UFC, c'est l'accord. Les gens sont dans un deal et ils sont en train d'évoluer ensemble. Que nous pouvons que les souhaiter bon vent et que les inviter à prendre des décisions qui arrangent les Togolais et non pas à eux en tant que membres des partis politiques. Et d'occasion, c'est l'occasion aussi que moi je puisse interpeller la présidente en même temps que le dossier du riz dont nous allons parler tout à l'heure. Mais c'est l'occasion pour moi parce qu'elle est une mère, elle prépare du riz, elle n'aimera jamais préparer du riz de mauvaise qualité. Donc je l'interpelle en même temps.
Alors, nous allons en parler tout à l'heure, mais un mot sur le gouvernement dont on attend toujours la composition. On ne connaît pas le Premier ministre, on connaît le sortant qui aurait bataillé dur pour être président de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas eu lieu. Une femme donc lui a damé les pions. Aujourd'hui, à quelle équipe gouvernementale peut-on s'attendre pour les défis de l'heure?
Seul le président de la République sait ce qu'il veut faire. C'est lui qui doit savoir qui et qui il veut mettre dans son gouvernement. Ne t'étant pas dans son gouvernement, dans son parti, j'allais dire, s'il ne pourrait pas prétendre. Mais les deux défis de l'heure, c'est de mettre frein à la répression policière. Mm-hmm. En tant que défenseur de droit que je suis, c'est de mettre frein à la répression policière, c'est de mettre fin aux rafles, inutiles qui font semer de la peur et de la panique au sein des populations. C'est de mettre fin à l'injustice, c'est-à-dire le ministre de la Justice doit être quelqu'un de qui doit dire ce qu'il pense et non pas qui attend qu'on lui dise quoi que ce soit. Ok? Nous voulons désormais que nous, en tant qu'association de consommateurs, que la population togolaise puisse consommer ce qui est de qualité. Donc, on doit renforcer les institutions qui ont la charge de contrôle des produits sur le marché et de surcroît faire tout pour que ce contrôle-là soit vraiment respecté et que le oui soit le oui et que le non soit le non. Ce qui doit être rejeté doit être rejeté, ce qui doit être consommé doit être consommé. Et donc, en résumé, seul le président de la République sait et saura qui est qui et ce qu'il attend de son gouvernement.
Ce qu'il attend de son gouvernement, venons-en à ces problèmes liés à la santé alimentaire. Je veux parler de ce riz que vous qualifiez de qualité douteuse. De quoi s'agit-il concrètement?
Merci pour cette question. En fait, il s'agit d'un dossier que nous avons hérité de nos collègues de la Guinée-Bissau et qui nous ont alerté depuis le 27 qu'il y a une cargaison de riz qui est en route pour Lomé et qui a été refusé en Guinée. En fait, il s'agit d'un navire appelé Océan Princesse qui a quitté en Birmanie le 7 août 2018 et qui est arrivé en Guinée-Conakry en décembre en novembre 2018 et donc le 22 novembre 2018. Ce n'est qu'après les analyses que le ministre a dit que ces inspections, les inspections de ces services ont révélé que le stock du riz d'origine indienne de 14 000 tonnes est jugé de qualité et qu'on pouvait décharger ça en Guinée, ce qui a été fait. Et par conséquent, le riz d'origine birman a des anomalies liées au poids et à la qualité. Donc, liées au poids et à la qualité. Donc, par conséquent, il ordonne à ce que le riz ne soit pas déchargé en Guinée. Et la lettre a été adressée au directeur, c'est-à-dire de la société importatrice de la Guinée. Bon, on ne sait pas comment se fait qu'après cette interdiction, le bateau, le navire s'est tourné vers le Togo. Et arrivé au Togo, et ils ont cherché à décharger le riz. Donc nous, on avait alerté l'autorité pour dire qu'il y a un navire qui est en route dans ce sens. Merci de bien vouloir vérifier si le navire est en conformité, si les productions sont de bonne qualité. Mmh. Et on a eu la lettre du ministre Gurokula Gadazi le 7 janvier, en date du 7 janvier, selon laquelle le bateau n'est pas en conformité. C'est-à-dire le bateau n'était pas destiné au Togo. Mmh. Et dans la législation phytosanitaire en vigueur au Togo, le bateau ne devait pas accoster au Togo. Donc le ministre a ordonné que le bateau ne puisse pas engager les manœuvres pour accoster. Ça veut dire qu'on l'a renvoyé. Mais à notre grand étonnement, on constate que le bateau est retourné en rade. Et quelques jours, le bateau revient. Nous donnons l'information, on nous dit que c'est pour faire des analyses. Et quelques jours encore, le bateau repart. Ça revient. Actuellement, où nous parlons, le bateau est encore au port de Lomé. Et on nous dit que c'est pour poursuivre les analyses. Comment se fait-il qu'on peut faire des analyses d'aller-retour comme ça? Si on ne peut pas faire un peu préalablement pour les analyses complètes de la cargaison. Et donc, nous nous posons plusieurs questions. Nous nous sommes basés sur les deux lettres, celle du ministre en charge du commerce de la Guinée-Conakry et celle en charge du ministre en charge de l'agriculture, le colonel Gurokula Gadazi, pour dire ces deux lettres suffisent largement pour que les autorités puissent dire au bateau: nous ne voulons plus votre cargaison au Togo parce qu'elle a été déjà déclarée de mauvaise qualité en Guinée. Ce n'est pas question que ça vienne au Togo. Le riz qui est de mauvaise qualité au Togo, je ne sais pas, à peine les un mois que le bateau aurait fait sur la mer pourrait transformer le riz en bonne qualité. Aucunement pas. Donc c'est pourquoi nous interrogeons sur cet aspect. Les allers-retours sont sujets de substitution et nous demandons à ce que l'autorité puisse agir. Nous avons fait des conférences de presse, alerté l'opinion jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore vu un résultat. Mais nous sommes dit que nous devons interpeller le chef de l'État lui-même. Parce que les autorités ministérielles, nous les avons déjà interpellées. Et on n'a pas encore vu un résultat en tant que tel. C'est pourquoi nous voulons dire au chef de l'État que les Togolais lui demandent un petit pardon. Un pardon. S'il écoute d'intervenir dans cette affaire pour que le navire retourne avec la cargaison. Au cas contraire, ou bien jusqu'à ce que le propriétaire peut demander ou qu'on peut le lui autoriser, de lui demander qu'on puisse autoriser à ce qu'il détruise la cargaison au Togo. Mais au contraire, qu'on lui demande de mettre tout en œuvre pour que le bateau, pour que la cargaison ne soit pas déchargée au Togo. Parce que la vie des Togolais qui sera mise en danger, c'est la vie de ses électeurs, c'est la vie de ses citoyens, c'est la vie de tous ceux qui ont été élus, des députés qui estiment être élus, c'est la vie de leurs électeurs qui sera mise en danger. Et il faudrait qu'ils puissent prendre cette mesure pour que les gens ne puissent pas manger ce qui est de mauvaise qualité et tomber malade demain, parce qu'ils se retrouveront dans les hôpitaux. Et on criera que les hôpitaux ne fonctionnent pas bien. Problème de cancer, des gens, on n'arrive pas à les guérir, parce que si vous consommez ces trucs-là, c'est un des problèmes de cancer que vous pouvez avoir, des problèmes d'asthme, plusieurs maladies que nous ne pouvons pas mettre de parler, c'est un problème de digestion. Vous mangez un produit qui n'est pas de bonne qualité, tout votre appareil, dispositif digestif, pourra avoir des problèmes, des maladies après. C'est pourquoi nous demandons à ce que le chef de l'État, son excellent foi, sa dernière cible, puisse intervenir dans cette affaire.
Alors aujourd'hui, nous savons que vous avez animé une conférence de presse. Au-delà de cette conférence de presse, quelle autre action avez-vous entamée, à part aussi l'interpellation du chef de l'État, pour que les autorités qui, entre-temps, avaient estimé que le bateau ne devrait pas engager des manœuvres, ont autorisé ces manœuvres pour que finalement le bateau se retrouve au port autonome de Lomé pour des analyses?
Oui, mais nous, on n'a pas encore engagé d'autres démarches envers ces autorités. C'est elles qui nous ont dit que nous poursuivons les analyses. Et que dès que les analyses seront prêtes, qu'elles vont nous adresser, nous envoyer les résultats. Nous estimons et nous attendons jusqu'à ce que les analyses soient prêtes. Mais nous, on n'attend pas ces analyses parce que ça nous importe peu. Ça nous importe peu. Parce que les analyses ont été déjà faites en Guinée. Et c'est sur la base des analyses que le ministre a écrit une lettre pour dire le bateau, que le navire ne décharge pas. Mais quel type d'analyse vous allez encore faire ici? Les laboratoires guinéens sont moins compétents que les laboratoires togolais? Aucunement pas. La norme phytosanitaire togolaise est très différente de la norme phytosanitaire en Guinée? Je ne crois pas. La norme phytosanitaire, elle est mondiale. Elle est mondiale. À quelques différences près, mais elle est mondiale. Peut-être d'autres choses qu'on va insérer dedans. Mais si on nous a dit dans une lettre précédemment que le bateau ne respecte pas la réglementation en vigueur phytosanitaire au Togo, jusqu'à quand c'est du 7 au 12 qu'on a changé la loi, la réglementation, je ne crois pas. Donc c'est pourquoi nous on dit, les analyses dont ils prétendent faire actuellement nous importent peu. Ce que nous demandons, de faire retourner la cargaison. Sauf s'ils nous disent que le ministre Ouro Kara Gadazi aurait fait une erreur en écrivant ça. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est une erreur qu'il a fait? Ce n'est pas une erreur. Il a dit la documentation, l'analyse documentaire, c'est ça qui a prouvé ça. Si un bateau n'est pas destiné à un pays, ce navire ne doit pas courser dans ce pays. C'est la règle. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été appliqué dans la lettre. Pourquoi revenir là-dessus? C'est ça. Il faut chercher la réponse ailleurs.
Concrètement, si vous attendez longtemps, vous n'avez pas de retour non plus, et que vous constatez que le riz en question est déversé sur le marché, vous, en tant que Ligue togolaise des consommateurs, quelle serait votre réaction?
Ce serait déplorable. Mais les Togolais aviseront, parce que nous, on les défend. On peut pas se substituer à eux. On les défend, bien sûr, mais on peut pas se substituer à eux. Nous ne pouvons pas nous multiplier pour dire quoi que ce soit à leur place. Mais nous donnerons des consignes en ce moment. Ceux qui voudront bien respecter ces consignes, Dieu merci. Ceux qui ne voudront pas, bon, tant pis pour eux, ils choisiront ce qu'ils veulent. Mais nous, l'histoire dira que nous, on a joué notre partition. C'est un travail que nous faisons avec des risques. Imaginez un problème de bateau, de navire, c'est un peu un problème de mon village. OK? Mais mon village dépasse ça en termes de valeur. Si des gens pensent que l'argent dépasse les hommes, moi je ne le crois pas. Chez nous, le nom de ma maman, c'est que quoi? L'homme est plus important que l'argent. Ok? Donc, nous donnons la valeur à l'homme que de donner la valeur pécuniaire aux objets et aux matières. Donc, par conséquent, les Togolais doivent savoir en ce moment ce qu'il faut faire. S'il faut consommer le riz, ou bien s'il ne faut pas le consommer. Nous donnerons quand même des consignes. Et je crois que nous n'arriverons pas jusque-là. Les autorités vont entendre raison. Et ils décideront jusqu'à ce que cette décision sera salutaire. Et nous reviendrons encore devant vos micros pour féliciter peut-être ceux qui prendront cette décision. Et c'est le chef de l'État. Nous le féliciterons sans embâche. Avec plaisir même pour le féliciter. Nous lui adresserons des courriers pour lui féliciter s'il est arrivé à prendre cette décision. Même si c'est ses ministres, nous le féliciterons parce que c'est pas entre son biais que les ministres auraient pris d'autres décisions que celles qu'ils auraient pour lui prendre. C'est pourquoi nous disons que c'est lui, il est le seul à pouvoir sauver les Togolais dans cette situation. Mais il faut se poser la question de savoir, mais est-ce qu'en Guinée, le président avait intervenu avant qu'on ne refuse? Non, pourquoi au Togo? Mais comme c'est arrivé à ce niveau, ce n'est plus une affaire de ministre. C'est lui qui doit, c'est lui qui rend compte. Les ministres ne rendent pas compte. C'est lui qui rend compte au peuple. C'est lui qui rend compte devant l'histoire. On ne dira jamais qu'à l'époque où le ministre Kouro Kara était ministre de la culture, on avait fait ceci. On dira que c'est le chef de l'État, les forces énergétiques, qui était président à l'époque. En 2019, c'est lui qui était président, l'affaire du riz aussi en précédent était venue. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il doit jouer sa partition.
Emmanuel Sogadi, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue togolaise des consommateurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre travail, vous le faites avec beaucoup de risques. D'où vous viennent les moyens pour défendre les consommateurs?
De nulle part. Sauf que nous avons un engagement. Nous avons la passion de le faire. Mais il arrive des fois où nous sentons le désistement, nous sentons le découragement. Mais il y a une force extérieure qui nous vient de Dieu, de notre Seigneur. Je suis croyant pratiquant qui vient, qui me dit, même si vous marchez dans l'eau, l'eau ne vous prendra pas. Mais si vous marchez dans la vallée, je vous secourirai. Mais lorsque vous marchez dans le feu, les flammes du feu ne vous prendront pas. Et c'est cette force-là qui me soutient des fois. Mais comme je suis un être humain, comme nous sommes des êtres humains, il arrive des fois que nous avons de la peur au ventre. Parce qu'on ne sait pas ce qui va vous arriver demain. On ne sait pas ce que des gens peuvent vous faire en circulation. Vous avez vu ce qu'on a fait à votre collègue au Ghana. Ce n'est pas exclu que des gens puissent chercher par tous les moyens pour vous nuire. Mais nous demandons toujours la main de Dieu de nous protéger. Et nous avons, Dieu n'a jamais été vu nulle part. Mais moi, je continue de voir ces merveilles, ces réalisations dans ma vie, parce qu'il continue de me protéger et de nous protéger. C'est pourquoi aujourd'hui, je continue par faire le travail. Le jour où il me dira une nuit, il m'inspirera pour dire, mais Emmanuel, tu n'es plus à même de continuer ce travail. Fais autre chose que ça, je le ferai. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours la force, la conviction que ce que je fais, je ne le fais pas pour détruire qui que ce soit, mais je le fais pour édifier, pour construire, pour sauver des gens. Et il n'y a rien de plus bien que de sauver les êtres, des concitoyens. C'est pourquoi je continue de le faire. Force en termes de moyens financiers, nous n'en disposons même pas. Force en termes de moyens techniques, nous n'en disposons même pas. Sauf que nous reconnaissons que nous avons des gens qui collaborent avec nous, qui nous donnent des stratégies d'action, à qui nous disons merci, tel que vous, la presse. Nous disons un sincère merci à la presse qui essaie de nous aider dans ce travail. Nous cessons de dire merci aussi à tous les partenaires techniques de nos collègues des autres pays de la sous-région qui nous donnent des informations utiles à tout moment dans de pareils cas. Nous cessons de dire merci à toutes les bonnes volontés qui, dans leur coin, dans leur lit, prient pour nous pour que nous puissions faire un travail impeccable. Donc, pour finir, merci à tout le monde qui ne cesse de penser à ce travail et qui se rendent compte que le travail n'est pas facile, le travail que nous faisons au Togo.
Emmanuel Sogadi, on va rapidement aborder la question des manifestations qui reprennent le 26 janvier prochain. Nous vous avons engagé pour défendre la voix du peuple togolais qui se bat pour arracher sa liberté, sa souveraineté confisquée. Dites-nous comment vous... Vous appréhendez cette reprise des manifestations quand on sait que plus d'une année ont été consacrées aux manifestations sans que le peuple ait obtenu l'alternance tant souhaitée.
Oui, vous savez, nous sommes dans un pays, dans une république, et il y a les textes. Les textes doivent être respectés. Et au-delà de ce que les gens disent, il y a la constitution qui donne la liberté aux gens de manifester. Et ils sont dans leur plein droit. Et nous soutenons ces manifestations parce que nous pensons que les gens font des revendications légitimes. Les gens, lorsque vous n'avez rien comme moyen, le seul moyen qui vous reste, c'est de manifester pacifiquement. Si les manifestations organisées sont pacifiques, si les gens ne font pas des répressions, ça veut dire que les manifestations sont toujours pacifiques. Et il n'y a jamais de destruction lorsque une manifestation n'est pas réprimée. C'est pourquoi nous disons que des gens ont le droit de manifester pour dire nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Et l'autorité a l'obligation de rentrer en discussion avec ces gens-là pour voir ce que vous voulez, c'est ce dont je dispose. Et il ne faudrait pas que l'autorité fasse de dilatoire. Nous avons compris dans les discussions antérieures que ça a été beaucoup de dilatoire, ce qui a fait que nous sommes restés à l'état où nous sommes. C'est vrai que des gens peuvent parler d'un nouveau parlement, mais ce n'est pas la fin des revendications sociales et politiques pour le peuple togolais. La preuve est que les partis politiques, la C14, continuent de manifester en lançant la manifestation de samedi. Et donc, nous voulons que le Togo puisse aller de l'avant. Nous voulons que le Togo soit calme, que le Togo continue le Togo dans les exemples démocratiques et que la tenance puisse prendre corps au Togo. Nous l'avons toujours souhaité en tant qu'activistes et défenseurs des droits de l'homme. Ce n'est qu'un peu un souhait légitime en ce sens-là. C'est pourquoi nous demandons à ce que ceux qui nous n'obligeons personne à aller aux manifestations, mais on les invite à venir s'ils se sentent dans cette lutte. Et ils doivent se sentir aussi dans cette lutte, parce que cette lutte n'est pas pour personne, mais c'est pour tous les Togolais. D'aucuns diront que c'est pour les leaders des partis politiques. Dès l'idée des partis politiques, eux seuls, ils vont faire quoi? ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Sur les répressions qui se font à l'intérieur, les villes qui sont assiégées, les leaders politiques qui sont assiégés dans ces villes, ce sont les populations qui sont assiégées. Et on doit manifester pour qu'on puisse lever ces états de siège-là. Et on doit faire tout pour que les gens comprennent qu'on est des Togolais, on doit se comprendre. On n'est pas des ennemis non plus. On ne le sera nulle part. Que les gens de l'Occident, de l'Europe ou de n'importe quel pays ne viennent pas s'aimer de n'importe quoi au sein des populations, au sein des partis politiques, pour dire que tel parti politique ne doit jamais venir au pouvoir. Tel parti politique doit être éternel. Il n'y a rien qui est éternel dans ce monde. Il n'y a rien qui... Rien n'est éternel. Tout est éphémère. Il y a Dieu qui dit, seule la volonté de Dieu qui est éternelle. La Bible dit, seule la volonté de l'éternel qui est... la volonté de Dieu qui est éternelle. Maupelonon, Welida, on dit en langue vernaculaire. Moussianounouvaïna, Maupelonon l'itegbe. Tout passe, mais la volonté de Dieu est éternelle. Donc il faut que les gens comprennent tout ça. Parce que nous sommes un peuple chrétien, nous sommes un peuple conciliant, un peuple qui comprend vite les choses. Et donc il faudra que nous puissions faire et accepter et faire de route ensemble pour que le Togo puisse évoluer au grand intérêt de nos enfants. Parce que si on ne sait pas faire, nos enfants seront, même ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont en bonne position, leurs enfants seront victimes demain, ils ne le seront pas. Ils ne seront pas dans ce monde. Ils partiront peut-être, ils mourront peut-être, mais leurs enfants seront victimes. Nous ne voulons plus que l'injustice puisse être érigée en règle. Nous ne voulons plus que la corruption soit érigée. Nous ne voulons pas que l'impunité soit une règle d'or. Nous voulons que l'impunité disparaisse. Nous voulons que la corruption disparaisse. Nous voulons que la justice soit établie. Nous voulons que tous les citoyens du Togo, où qu'ils soient, que la richesse soit équitablement partagée entre ces citoyens. C'est vrai, on vous dira que par quel moyen les richesses sont partagées. Si les routes sont bien construites dans chaque ville, si les hôpitaux sont construits, si les infrastructures routières et d'ordre socio-économique sont bien faites, c'est-à-dire les gens se sentiront à l'aise. Et c'est pourquoi nous disons que ce qu'ils revendiquent sont le droit de revendiquer. Et nous, en tant qu'organisation, membres de Fonds Citoyens Togo Debout, nous comprenons la manifestation que les gens sont en train de faire et nous partageons à juste titre ces valeurs-là.
Emmanuel Sogadi, merci donc pour votre disponibilité.
Merci à vous et bonsoir à tous vos internautes, à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et à travers le monde entier.
Merci donc à Emmanuel Sogadi, président de la Ligue togolaise des consommateurs, notre invité dans cette émission La Voix du Peuple, le numéro de ce jour, qui nous a permis d'aborder les sujets relatifs à l'actualité togolaise, avec notamment la sortie du Collège des avocats de Folissa TV, également l'élection du bureau à l'Assemblée nationale, quel gouvernement pour quelle mission et la reprise des manifestations, entre autres, sans oublier le dossier piquant qui va constituer une atteinte à la santé alimentaire du peuple togolais. Je parle là donc de la tentative de déversement de riz avarié ou jugé impropre par des spécialistes dans le pays. Merci donc à vous qui nous avez suivis. Bien de choses chez vous. Bonne suite de nos programmes. C'était donc votre émission La Voix du Peuple avec Rodrigue Ahego depuis Lomé, la capitale togolaise. Au revoir.
La Voix du Peuple. La Voix du Peuple. La Voix du Peuple sur Radio Avolété. La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple.
So glass to me, dear.
Sosodo.
Elolé.
50 ans de règne d'Enyasimbe, ça suffit.
50 ans de dictature, là, ça suffit.
Assassinats politiques, crimes économiques, Kabési au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assassinat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne d'Enyasimbe, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique d'Enyasimbe d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vainc dans la dignité.
Wakato adala togobia ive.
Wakatifo togobia fenima.
Togobia aloa todala ekwe ekwe nesan.
Togovio gamesu mitite.
Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora.
Oh peuple, tu es trop fragile, trop manipulable. Aussi, le diable qui très facilement te promet un paradis. Mais quel paradis? Tu es malheureux, tout ça pour les qui font de toi ce que tu n'es pas. Yaman.
Yeah, 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 yeah.